Comme il en était là de ses propres réflexions, la voiture s'arrêta devant la porte monumentale du temple de notre vraie foi. « Ah, mon enfant, reprit-il aussitôt d'une voix très distincte, nous sommes arrivés, descendez la première et dépêchons-nous, s'il vous plaît. » Les incertitudes que l'honnête peintre aurait pu conserver encore se dissipèrent au déjeuner. La métamorphose avait été aussi rapide que merveilleuse. Pélopidas, qui paraissait au courant des choses, ayant muni d'instructions très spéciales une habilleuse de la maison, la tremblante et joyeuse Clotilde avait disparu dans les profondeurs. 50 minutes plus tard, le caricaturiste, qui ne s'ennuyait pas du tout dans ce lieu de pèlerinage, avait vu venir à lui une jeune femme très bien mise, qui n'avait pas reconnu du premier coup, et qui lui avait serré très doucement les deux mains, en silence, avec une expression sublime. Clotilde était si naturellement, si simplement supérieure à sa condition, que, même averti, l'observateur parisien le plus pénétrant n'aurait pas découvert la plus légère disparate pouvant déceler une transformation si soudaine. Gacougnol, qui s'était malicieusement préparé à étudier les points de suture, en avait été pour ses frais et s'était senti pénétré d'une stupeur vraiment extraordinaire. Et maintenant, dans ce café-restaurant du boulevard Saint-Michel où le cocher venait de les déposer, il cherchait encore à s'expliquer le miracle d'une distinction native dont le germe insoupçonné, charrié dans le courant mystérieux des descendances, après avoir traversé combien d'amalgames impurs, avait fini par se développer en cette créature délicieuse. La toilette de Clotilde était assurément sans aucun faste. C'était la mise la plus ordinaire d'une de ces 300 000 piétonnes de Paris qui ont conquis l'univers sans dépasser les boulevards extérieurs. Costume noir de la plantigrade sans remords ou de la passante laborieuse que 20 000 romans ont décrit et dont le prix ne défrayerait pas le déjeuner d'une souillonne impératrice des Indes. Mais elle portait cet attirail de guerre civile avec la même grâce naturelle que les libellules portent le corselet de turquoise et d'or. Sa taille s'était redressée. L'armature impérieuse du vêtement féminin relevait désormais son buste et poussait en haut sa tête soucieuse, que les mains pénitentielles de la pauvreté avaient si longtemps courbée. Le peintre critique, au comble de l'étonnement, braquait en vain toute son analyse. Il ne trouvait pas l'ombre d'un écart véniel, d'une discordance ou d'un heurt dans les attitudes ou les façons. Même la redoutable épreuve du déjeuner ne donnait aucun résultat déchanteur. Il voulut savoir si elle levait le petit doigt de la main droite en portant son verre à ses lèvres. Elle ne le levait pas. Il ne remarqua pas non plus qu'elle éprouva le besoin de se cacher la moitié du visage avec sa serviette, en parlant aux garçons qui les servaient, ni qu'elle fît entendre une petite toux mélodieuse en rompant son pain. Elle ne s'écriait pas sur la nouveauté des choses, se bornant à demander, avec l'ingénuité la plus rapide, les indispensables explications, et ne s'excusant pas d'avoir bravement faim et soif, ainsi qu'il convenait à une robuste fille, dont la faiblesse actuelle était surtout la conséquence de beaucoup d'années de privation et de chagrin noir. Enfin, tout en elle évoquait l'image d'une vive aiglonne grandie jusqu'alors dans les lieux obscurs et reconnaissant aussitôt son ciel. Dans sa parole et dans son visage, il y avait tout juste comme une impression de rapatriement et de renouveau. Elle disait les mêmes choses qu'elle aurait pu dire quelques heures auparavant, étant toujours prisonnière dans le même cerceau d'idées pâles, circonscrite par un polygone de ténèbres. Mais elle les disait d'une voix plus ferme, que les imbéciles n'auraient pas manqué de croire ambitieuse, précisément parce qu'elle était timbrée d'une humilité plus profonde. Sa physionomie n'était pas moins touchante et moins douce, et ses sublimes yeux avaient toujours leur intraduisible expression d'après l'orage. mais son sourire était à peine un peu moins navré. On voyait qu'une peine immense persistait au fond de sa joie, qui ne serait peut-être que d'un jour, et bâtie avec l'illusion de l'illusion, comme les châteaux de vapeur des enfants des pauvres. Cependant, l'excellent repas que lui donnait Gacougnol, et surtout le très bon vin de Bourgogne qu'il fit apporter, dissipèrent, ou du moins refoulèrent jusqu'à la base du cimier noir de sa chevelure, le nuage mobile de son tourment. « Ma chère Clotilde, disait Gacougnol, les anciens juifs avaient un nom pour chacun des deux crépuscules. Celui du matin s'appelait le crépuscule de la colombe, et celui du soir, le crépuscule du corbeau. Votre visage de mélancolie me fait penser à ce dernier. Je veux faire sur vous une grande épreuve. Supposez-moi, pour un instant, un très vieil ami, que vous auriez perdu l'espérance de revoir, et que vous avez eu la joie de rencontrer il y a 2 heures. Dites-vous même, si vous le préférez, que je suis peut-être, qui sait, le bonhomme providentiel, l'instrument désigné pour transformer votre existence. De même que j'ai transformé votre costume, je ne sais pas comment, par exemple, et racontez-moi bonnement votre histoire. Elle est douloureuse, j'en suis persuadée, mais je devine qu'elle n'est pas très compliquée ni très longue, et nous aurons encore le temps d'arriver au jardin des plantes. Est-ce trop vous demander ? Vous comprenez bien, mon enfant, que j'ai besoin de vous mieux connaître. Je ne sais de vous que votre nom, et c'est à peine si j'entrevois très confusément votre situation. Je me suis quelquefois amusée, comme tant d'autres, à faire raconter leur histoire à de malheureuses diablesses qui me débitaient d'immenses bourdes, me prenant de bonne foi pour quelques jobards, sans se douter que j'étudiais précisément leur façon de mentir. Avec vous, Clotilde, c'est autre chose. Je sens que vous ne devez pas mentir, et je vous croirai. S'il y a quelque circonstance que vous ne vouliez pas ou que vous ne puissiez pas me dire, je vous en prie, ne mettez rien à la place. 2 lignes de point, et passez outre. Voulez-vous ? Et il enveloppa d'un regard avide cette singulière qui déconcertait son expérience. Clotilde l'avait écouté avec une émotion qui faisait battre ses artères. D'abord, une aspiration brusque lui avait entrouvert la bouche, comme si quelque vision passait devant elle. Puis une fumée rose avait paru flotter un instant sur son visage. Et maintenant elle regardait Gacougnol d'une manière si vraie, si candide, qu'un rayon de lune, semblait-il, aurait pu descendre jusqu'à son cœur. « J'y pensais, » répondit-elle simplement. Puis, vidant d'un trait sa petite coupe de vieux corton et posant sa serviette sur la table après s'être essuyé les lèvres, elle se leva et vint s'asseoir sur le divan rouge à côté du peintre, qu'il avait placé devant lui, en pleine lumière, pour l'étudier à son aise. « Monsieur, » dit-elle gravement, « je crois, en effet, que vous avez été mis sur mon chemin par la volonté divine. Je le crois profondément. Je suis très sûre aussi que nul ne sait jamais ce qu'il fait, ni pourquoi il le fait. Et j'ignore même si quelqu'un pourrait dire, sans craindre de se tromper, ce qu'il est vraiment. Vous parliez d'un ami, d'un vieil ami que j'aurais pu perdre et que je croirais retrouver en vous. Cette parole était bien étonnante pour moi, je vous assure. Vous en jugerez vous-même, car je vais vous parler comme vous désirez que je vous parle, comme je parlerai à cet absent que vous m'avez tant rappelé ce matin, aussitôt que vous avez eu compassion de ma peine. Je vais tout vous dire. S'il y a la honte, ajouta-t-elle d'une voix un peu altérée, tant pis pour moi. Alors, sans autre préambule, sans aucun lyrisme élégiaque et sans nul détour, sans atténuation ni apologie, elle raconta sa vie déflorée qui ressemblait à 10 000 vies. Mon existence est une campagne triste où il pleut toujours. Son voisin ne songeait plus à l'observer. Dompté par une simplicité inconnue, il savourait en silence, dans la région de son âme la plus ignorée de lui-même, la magique et paradoxale, la magique et paradoxale suavité de cette candeur sans innocence. Pour la première fois peut-être, il se demandait à quoi pouvait bien servir d'être si malin et d'avoir bêtement galvaudé sa vie dans les expérimentations ou les sondages les plus ambitieux, pour arriver à découvrir à fleur de trottoir, sous un pavé de la voie banale, cette source de cristal qui chantait si bien sa fraîche complainte. Les paroles de ce missionnaire, disait-elle, furent pour moi comme des oiseaux du paradis qui auraient fait leur nid dans mon cœur. Sans le vouloir et sans le savoir, elle ruisselait de ces familières images si fréquentes chez les écrivains mystiques. Le tissu léger de son langage, qui laissait voir les formes pures de sa pensée, n'était presque rien de plus qu'un appel constant des humbles choses de la nature qu'elle avait pu voir. Cette primitive se peignait naïvement elle-même avec les couleurs en très petit nombre qu'elle possédait, sans égard aux lois perspectives et aux différentes valeurs, ne craignant pas de faire avancer monstrueusement un horizon ou d'éclabousser de lumière certains points obscurs. Mais toujours, elle apparaissait lointaine, minuscule, obombrée, comme exilée de son propre drame, errante et perdue dans des sillons noirs, une petite lampe à la main. Parfois, cependant, elle avait des mots étranges qui déchiraient, ainsi que des éclairs, le fond de son âme. « J'ai cherché l'amour comme les mendiants cherchent les vipères. Quand j'ai frappé M. Chapuis, j'ai cru qu'il me poussait un chêne dans le cœur. » Et c'était tout. La transparente rivière continuait à travers les bocages de Mancenillier ou les clairières dangereuses de son récit. Rien ne fut omis. Sa chute vulgaire fut racontée sans excuse, avec toutes les circonstances qui pouvaient la faire détester. Elle montra sa mère telle qu'elle était, sans amertume ni ressentiment, rappelant même deux ou trois conjonctures anciennes où cette sorcière avait paru l'aimer sans calcul. Enfin, elle ondoya de la plus insolite poésie son auditeur, à qui elle apparut telle qu'une incroyable virtuose du renoncement chrétien. « Maintenant, dit-elle en finissant, vous savez tout ce que vous avez voulu savoir. Je ne pourrais pas être plus vraie si j'étais interrogée par Dieu. Pour que rien ne manque à ma confession, j'ajoute ceci. Lorsque, dans la voiture, vous m'avez dit que j'allais être habillée, après m'avoir fait mourir de peur en me disant exactement le contraire une demi-heure auparavant, je vous assure que j'ai complètement perdu la tête, à force de joie. J'ai eu comme éblouissement de folie et de cruauté. Nous allions très vite. Cependant, j'aurais voulu que le cocher déchirât son pauvre cheval pour aller plus vite encore. » Mais depuis que ce rêve s'est réalisé, je suis plus calme et j'espère que vous me trouverez tout à fait raisonnable. Gacougnol fit un signe pour qu'on lui apportât l'addition. Puis, ayant congédié l'homme à la soucoupe, se tourna vers Clotilde et lui tendant une honnête main qu'elle prit aussitôt, lui parla ainsi. « Mon enfant, ou plutôt mademoiselle, décidément, car je commence à me trouver ridicule d'être si paternel ou si familier. J'ai connu de très hautes dames, à qui j'enverrais bien volontiers vos hardes de ce matin. Votre confidence m'a donné pour vous une estime sans bornes, en même temps qu'un plaisir extrême que vous ne pouvez guère comprendre, car je vous ai écouté en artiste, et je passe pour un public assez difficile. Je suis donc peu capable de regretter ma curiosité. Cependant, elle a dû vous faire souffrir, et je vous prie de me la pardonner. Ne me dites plus un mot, nous manquerions nos bêtes. » En voiture, l'infatigable parleur était devenu silencieux. Il regardait Clotilde avec une sorte de respect vague, mélangé d'une évidente perplexité. Deux ou trois fois, il entr'ouvrit la bouche et la referma immédiatement, comme la porte d'un mauvais lieu, sans avoir proféré une syllabe. La jeune femme, attentive aux mouvements de la rue, observaient la consigne du parfait silence, et ils arrivèrent ainsi, pleins de leurs pensées, à la grille du jardin des plantes. Gacougnol s'étant débarrassé de son cocher, ils marchèrent dans la direction présumée du pavillon des grands fauves. Mais l'un et l'autre connaissaient peu ce jardin célèbre que fréquentent seuls les Parisiens du voisinage ou les étrangers, et naturellement ils s'égarèrent. Chemin faisant, Clotilde admira les zèbres et les antilopes, qu'elle s'arrêta pour contempler amoureusement. « Vous aimez beaucoup les bêtes ?» lui dit le peintre, la voyant caresser un de ces charmants êtres dont les yeux ressemblaient aux siens. « Je les aime de tout mon cœur, » répondit-elle. « Je voudrais qu'il me fût permis de les soigner et de vivre près d'elles dans une de ces petites maisons ravissantes qu'on leur a bâties. Leur voisinage me serait plus doux que celui de Chapuis. » Ce mot parut agir sur Gacougnol, qui se préparait visiblement à dire quelque chose de considérable, lorsqu'une main se posa familièrement sur son épaule. « Tiens, c'est vous, Marche Noire ? » cria-t-il en se retournant. « Je pensais à vous il n'y a qu'un instant. Comment diable êtes-vous ici ?»« J'y suis presque tous les jours, » répliqua le nouveau venu. « Mais comment y êtes-vous vous-même ? Je vous assure que votre présence m'étonne. » À ce moment, ses yeux rencontrèrent Clotilde et devinrent légèrement interrogateurs. Gacougnol fonctionna sur le champ. « Ma chère Clotilde, permettez-moi de vous présenter un de nos plus redoutables écrivains, Caïn Marche Noire. Nous l'appelons entre nous le grand inquisiteur de France. Caïn, je recommande à votre admiration mademoiselle Clotilde Maréchal, une amie que j'ai rencontrée ce matin, mais que j'ai dû connaître vers l'an 1000 dans un pèlerinage antérieur. C'est la poétesse de l'humilité. » Marche Noire s'inclina profondément et dit à Clotilde, « Mademoiselle, si mon ami ne se moque pas de moi, vous êtes ce qu'il y a de plus grand au monde. » « Alors, monsieur, il se moque de vous, n'en doutez pas, » répondit-elle en riant. « Et cela me surprend, car vous avez un nom terrible. Caïn, » ajouta-t-elle dans un effroi rêveur, « il n'est pas possible que ce soit votre vrai nom. » « Ma mère m'a fait baptiser sous le nom de Marie-Joseph, mais celui de Caïn figure très réellement sur le registre municipal, par la volonté formelle de mon père. Je signe Caïn quand je fais la guerre aux fratricides, et je garde Marie-Joseph pour parler à Dieu. M'expliquerez-vous, mon cher Gacougnol, cette randonnée au jardin des plantes ?»« Je suis venu pour les lions, » dit à son tour l'interpellé. « J'ai quelques croquis à prendre, et précisément nous cherchons leur tanière. » »« S'il en est ainsi, vous ne m'aurez pas rencontré inutilement, car vous ne me paraissez pas très au fait, et vous auriez certainement perdu la demi-heure de jour qui vous reste. En ce moment, les animaux féroces ne sont pas visibles pour la multitude, mais je vais vous introduire dans leur maison. C'est un peu chez moi, vous savez. » Quelques minutes après, Marche Noire, ayant frappé trois coups maçonniques à la porte du palais, entrait avec ses deux compagnons dans la galerie intérieure où les fauves achevaient leur repas du soir. « Voici les lions, » dit-il à Gacougnol, « croquez-les à votre aise. Le belluaire en costume de garçon de bureau que vous voyez là fera semblant de vous oublier une demi-heure. Je viens d'arranger cela. Il compte bien entendu que vous ne l'oublierez pas vous-même en sortant. Je vais causer un peu avec mademoiselle. » S'éloignant alors de Pélopidas, qui avait déjà tiré son carnet, il emmena Clotilde à quelque distance et la mit en face d'un tigre superbe, envoyé tout récemment par le gouverneur de Cochinchine. Ils étaient à deux pas de la bête, séparés d'elle seulement par une chaîne tendue au-devant de la formidable cage. « Ne craignez rien, » dit-il à sa compagne, qui tremblait un peu. « Vous êtes hors de portée. Et, d'ailleurs, ce tigre est mon ami. Il est ici depuis 3 semaines environ, et il ne se passe guère un jour sans que je vienne le voir et le consoler. » « Oh, notre conversation est ce qu'elle peut. Je ne me flatte pas de parler le tigre sans faute, mais on se comprend. Voyez plutôt l'aimable accueil. » Le tigre, qui d'abord s'était dressé de toute sa taille contre les barreaux, avait en effet paru se calmer à la voix de son visiteur. Il retomba sur ses pattes antérieures, éteignit la puissante rumeur de ses cordes et parcourut sa cage d'une extrémité à l'autre, évoluant chaque fois par le train de derrière, de façon à ne pas perdre un instant de vue Marche Noire, qu'il fixait de ses yeux d'avare méfiant, particulier à cette race de félins, et qui lui ont valu en grande partie son exceptionnelle réputation de cruauté. Enfin, sur un regard plus appuyé du dompteur, il se retourna et s'étendit de son long, adossé au pied de la grille. Alors, à l'inexprimable terreur de Clotilde, qui n'eut pas même la force de pousser un cri, Marche Noire, penché sur la mobile barrière, passa la main sur le dos de la bête formidable, qui s'étira voluptueusement sous la caresse, en exhalant un rauquement prolongé dont frémirent toutes les parois. « Vous le voyez, mademoiselle, dit-il après avoir accompli cette politesse, on calomnie beaucoup ces créatures admirables, que j'excuserais pourtant d'être enragée de leur ignoble prison. Pensez-vous que ce pauvre tigre soit si effrayant ? Il était dans sa belle forêt de l'Inde, il y a quelques mois à peine, et maintenant il meurt de froid et de chagrin sous les yeux de la canaille. C'est pour cela que nous nous aimons. Quelque chose l'avertit sans doute que je ne suis pas moins triste et moins exilée que lui-même. Mais nous avons encore d'autres affinités. Le nom diffamé de sa race correspond à celui de Caïn, dont vous me savez accoutré, et mon autre nom de Joseph n'implique-t-il pas la belle robe rayée du patriarche enfant dont vous voyez que ce captif est revêtu ? Je ne saurais vous dire à quel point je me sens solidaire de la plupart des animaux qui sont ici, et qui me semblent en vérité bien plus près de moi que beaucoup d'hommes. Il n'y en a pas un seul, je crois, dont je ne puisse dire qu'il m'a secouru dans la détresse du cœur ou dans la détresse de l'esprit. On ne remarque pas que les bêtes sont aussi mystérieuses que l'homme, et on ignore profondément que leur histoire est une écriture en images où réside le secret divin. Mais aucun génie ne s'est encore présenté depuis 6000 ans pour déchiffrer l'alphabet symbolique de la création. Cet étrange Marche Noire ayant été fort décrit dans un autre livre, il serait oiseux de réitérer ici sa peinture. Mais l'ignorante Clotilde, qui le voyait et l'entendait pour la première fois, s'étonna d'un homme qui avait l'air de parler du fond d'un volcan et qui naturalisait l'infini dans les conversations les plus ordinaires. L'instruction très primaire de la jeune femme et surtout l'horrible dénuement intellectuel de son entourage l'avait peu préparé aux incartades souvent inouïes de ce contemplateur nostalgique, de qui certaines apperceptions en arrière étaient quelque chose de déconcertant. Néanmoins, la droiture de sa raison l'avertissait d'une présence intellectuelle qu'il ne fallait pas mépriser. Instinctivement, elle devinait là de la profondeur et de la grandeur, et, bien qu'elle eût à peine compris, elle sentit tout à coup la joie d'une pauvresse morfondue qui s'appuierait, sans le savoir, au mur d'un four seigneurial où cuirait le pain des mendiants. « La création, dit-elle, je sais que l'esprit humain ne peut la comprendre. J'ai même entendu dire qu'aucun homme ne pouvait rien comprendre parfaitement. Mais, monsieur, parmi tant de mystères, il y en a un surtout qui me confond et me décourage. Voici, par exemple, une belle créature, innocente, malgré sa férocité, puisqu'elle est privée de raison. Pourquoi faut-il qu'elle soit en même temps privée de sa liberté ? Pourquoi les animaux souffrent-ils ? J'ai vu souvent maltraiter les bêtes, et je me suis demandé comment Dieu pouvait supporter cette injustice exercée sur de pauvres êtres qui n'ont pas mérité, comme nous, leur châtiment. Ah, mademoiselle, il faudrait demander auparavant où est la limite de l'homme. Les zoologistes qui font leurs petites étiquettes à deux pas d'ici vous apprendrez exactement les particularités naturelles qui distinguent de toutes les espèces inférieures l'animal humain. Il vous dirait que c'est tout à fait essentiel de n'avoir que deux pieds ou deux mains et de ne posséder en naissant ni des plumes ni des écailles. Mais cela ne vous expliquerait pas pourquoi ce malheureux tigre est prisonnier. Il faudrait savoir ce que Dieu n'a révélé à personne, c'est-à-dire quelle est la place de ce félin dans l'universelle répartition des solidarités de la chute. On a dû vous enseigner, ne fût-ce qu'au catéchisme, qu'en créant l'homme, Dieu lui a donné l'empire des bêtes. Savez-vous qu'à son tour, Adam a donné un nom à chacune d'elles, et qu'ainsi les bêtes ont été créées à l'image de sa raison, comme lui-même avait été formé à la ressemblance de Dieu? Car le nom d'un être, c'est cet être même. Notre premier ancêtre, en nommant les bêtes, les a faites siennes, d'une manière inexprimable. Il ne les a pas seulement assujetties comme un empereur. Son essence les a pénétrées. Il les a fixées, cousues à lui pour jamais, les affiliant à son équilibre et les immisçant à son destin. Pourquoi voudriez-vous que ces animaux qui nous entourent ne fussent point captifs, quand la race humaine est sept fois captive? Il fallait bien que tout tombât à la même place où tombait l'homme. On a dit que les bêtes s'étaient révoltées contre l'homme, en même temps que l'homme s'était révolté contre Dieu. Pieuse rhétorique sans profondeur. Ces cages ne sont ténébreuses que parce qu'elles sont placées au-dessous de la cage humaine, qu'elles entassonnent et qui les écrasent. Mais captifs ou non, sauvages ou domestiques, très près ou très loin de leur misérable sultan, les animaux sont forcés de souffrir sous lui, à cause de lui, et par conséquent, pour lui. Même à distance, ils subissent l'invincible loi et se dévorent entre eux, comme nous-mêmes, dans les solitudes, sous prétexte qu'ils sont carnassiers. La masse énorme de leurs souffrances fait partie de notre rançon, et, tout le long de la chaîne animale, depuis l'homme jusqu'à la dernière des brutes, la douleur universelle est une identique propiation. Si je vous comprends, monsieur Marchenoir, dit Clotilde en hésitant, les souffrances des bêtes sont justes et voulues par Dieu, qui les aurait condamnées à porter une très lourde partie de notre fardeau. Comment cela se peut-il, puisqu'elles meurent sans espérance? Pourquoi donc, alors, existeraient-elles et comment pourrions-nous dire qu'elles souffrent, si elles ne souffraient pas en nous? Nous ne savons rien, mademoiselle, absolument rien. Sinon que les créatures, déraisonnables ou sages, ne peuvent souffrir en dehors de la volonté de Dieu, et par conséquent de sa justice. Avez-vous observé que la bête souffrante est ordinairement le reflet de l'homme souffrant qu'elle accompagne? En quelque lieu de la terre que ce soit, on est toujours sûr de rencontrer un esclave triste suivi d'un animal désolé. L'angélique chien du pauvre, par exemple, dont les guitares de la romance ont tant abusé, ne vous semble-t-il pas une représentation de son âme, une perspective douloureuse de ses pensées, quelque chose enfin comme le mirage extérieur de la conscience de ce malheureux? Quand nous voyons une bête souffrir, la pitié que nous éprouvons n'est vive que parce qu'elle atteint en nous le pressentiment de la délivrance. Nous croyons sentir, comme vous le disiez à l'instant, que cette créature souffre sans l'avoir méritée, sans compensation d'aucune sorte, puisqu'elle ne peut espérer d'autre bien que la vie présente, et qu'alors c'est une effroyable injustice. Il faut donc bien qu'elle souffre pour nous, les immortels, si nous ne voulons pas que Dieu soit absurde. C'est lui qui donne la douleur, parce qu'il n'y a que lui qui puisse donner quelque chose. Et la douleur est si sainte qu'elle idéalise ou magnifie les plus misérables êtres. Mais nous sommes si légers et si durs que nous avons besoin des plus terribles remontrances de l'infortune pour nous en apercevoir. Le genre humain paraît avoir oublié que tout ce qui est capable de pâtir depuis le commencement du monde est redevable à lui seul de 60 siècles d'angoisse, et que sa désobéissance a détruit le précaire bonheur de ces créatures dédaignées par son arrogance d'animal divin. Encore une fois, ne serait-il pas bien étrange que la patience éternelle de ces innocents n'eût pas été calculée par une infaillible sagesse, en vue de contrepeser, dans les plus secrètes balances du Seigneur, l'inquiétude barbare de l'humanité ?